Bonjour, André Ruiz. Retrouvez-moi chaque mercredi sur Altitude FM 93.5 pour l'émission Théâtralité qui parle du théâtre amateur. Bienvenue dans Théâtralité. L'aventurier contre tout guerrier que nous retrouvons aujourd'hui avec Françoise Bénard. Bonjour Françoise.
Bonjour André, bonjour à tous.
Et Philippe Merlan.
Bonjour Philippe. André, bonjour à tous.
Merci d'être là pour parler du tome 111 de la série Bob Morane, écrit par Henri Verne et publié en 1972 par les éditions Gérard et Compagnie. Roman fantastique de science-fiction intitulé « Ceux des roches qui parlent ». Sur les hauts plateaux inhospitaliers de la Cordillère des Andes, une chasse à l'homme se termine par la mort du chasseur. C'est ainsi que débute cette nouvelle aventure de Bob Morane, qui commence aussi par un éboulement et dont l'issue coïncide avec un tremblement de terre. Un roman à vous secouer. « Ceux des roches qui parlent ». C'est le peuple d'un haut plateau des Andes. Ils ne mesurent que 18 cm de haut. Ils n'ont aucun contact avec les autres humains qu'ils appellent les autres, mais dont ils se méfient et se cachent soigneusement. Ce sont en fait des mutants. Il y a des milliers d'années, un vaisseau interplanétaire s'est écrasé dans les montagnes. Les habitants de la vallée ont été touchés par des espèces de radiations et leur taille a diminué progressivement. Ils ont rompu toute relation avec les humains qu'ils craignent et nomment les autres. Et seules quelques légendes d'origine inca, avec lesquelles ils vivaient en bonne intelligence, font de vagues allusions à un petit peuple. Le chasseur sucre, surnommé le manchot par Bob et Bill, défendant un sac de toile au précieux et lourd contenu, est poursuivi par Calou. Sucre finit par tuer Calou et provoque également un éboulement. Il pense en avoir échappé, mais des oiseaux géants le poursuivent. Il laisse échapper dans sa course le sac de toile. Pendant ce temps, Bob Morane et Bib Ballantyne, en promenade dans les Andes, contemplent la cordillère. Ils observent la scène à la jumelle et assistent au mouvement dans la montagne sans pouvoir intervenir. Voici le premier des extraits du roman choisi par Françoise, extrait numéro 1 du chapitre 2, au début du roman, lu par nos deux comédiens.
D'où ils se trouvaient, les deux hommes avaient vu sur un vaste paysage de montagnes aux pics acérés, couverts de neige éternelle. Pourtant, ce paysage olympien ne semblait pas les intéresser, du moins, pas pour le moment. Jumelles collées aux yeux, ils inspectaient un point précis, fort en contrebas et assez éloigné du promontoire. « Du cinéma ?» fit Bill. « Moi, je veux bien, commandant, mais cesse donc de m'appeler commandant !» coupa Morane avec une légère impatience. Toute machinale d'ailleurs. Hein. « Tu sais que je ne commande plus rien du tout. Et puis, les militaires, même ceux de l'armée de l'air, ça commence à passer de mode. « Du cinéma !» reprit le géant sans paraître avoir entendu. « Ça dépend du genre de film policier, bien entendu, fit Bob Morane. Oh, vous savez, moi, j'aime pas tellement ces trucs avec tous ces durs-là qui font semblant de l'être. Personnellement, je préfère les films tendres avec du violon au moment où le fiancé retrouve sa fiancée, qu'il a perdue 50 ans plus tôt dans le métro à une heure de pointe. De toute façon, ce n'est pas un bon film, coupa Morane. Je parle d'une autre. On connaît déjà l'assassin. » Valentine éloigna les jumelles de ses yeux et se tourna vers son compagnon pour dire, sans blague, « Où voyez un assassin, vous, commandant ?» Si tu voulais bien regarder, tu verrais aussi bien que moi. Docile, le colosse recolla les jumelles à ses yeux. Pour marquer au bout de quelques secondes, tout ce que j'aperçois, c'est un gars qui coltine des cailloux. Rien à voir avec un assassinat, je pense. Tu ne crois quand même pas que le type en question est en train de se construire une résidence secondaire? Ça m'étonnerait en effet. Ce gars-là ne montre pas de signe extérieur de richesse, comme dirait mon racketeur patenté. De toute façon, dans ce bled, ce serait une drôle d'idée. Avec plus d'attention, Bill observa le coltineur de cailloux qui continuait à empiler quartier de roc sur quartier de roc. « Vraiment ?» fit encore Bill. « Faut avoir envie de le faire par cette grosse chaleur. » À moins de vouloir bâtir une réplique exacte de la pyramide de Khéops. Et aussitôt, il enchaîna. « N'empêche que je continue à me demander où vous voyez un assassin dans tout ça, commandant. Vous auriez pas l'esprit un peu mal tourné? Me faites penser à ce mec-là qui, quand il aperçoit un arbre, pense immédiatement à un pendu et à un noyé au bord d'une rivière. » Moran lança un rapide coup d'œil à son compagnon. « Je me demande parfois, dit-il, ce que tu as dans ta grosse tête. » D'en y avoir qu'une cervelle comme un pois chiche qui baigne dans des litres de cognac. Pas de cognac, protesta Bill, blessé dans ses sentiments patriotiques d'Écosse et Montain. Du whisky, plutôt. Soit, admit Moran avec un soupir. Mais regarde plutôt notre type là-bas. Il est en train d'entasser des centaines et des centaines de kilos de pierre au bord d'un surplomb. Tu t'imagines recevant tout ça sur le coin de la cafetière? Pas le moins du monde, répondit Bill avec conviction. De toute façon, vous savez bien que je manque complètement d'imagination. Eh bien, le particulier qui grimpe sous le surplomb ne doit pas en avoir plus que toi. Ça, par exemple, s'exclama Bill, tu ne l'avais pas remarqué, celui-là. C'est fait maintenant, tu es l'assassin et la victime au bout de ta lorgnette.
Une brusque agitation s'empara de l'Écossais. Il se dressa en faisant de grands gestes et en hurlant. Hé, hey, vous là-bas, oh, attention, hé, hey, oh! Le gisant s'excitait, battait des bras, trépignait au risque de casser le cou en dégringolant dans la vallée qui s'ouvrait sous lui. Moran, lui, n'avait pas bougé, les jumelles fermement serrées entre les doigts, attentif à ce qui se passait là-bas. Seuls les muscles de ses mâchoires, contractées, témoignaient de son intérêt. « Cesse donc de jouer les sémaphores, Bill !» jeta sèchement le français. « Tu perds ton temps. Autant vouloir attirer l'attention d'un nain vert sur la planète Mars !» Quant à intervenir, tu arriveras trop tard. D'où il se trouvait, il dominait une région tourmentée et à la vallée escarpée au bord de laquelle il se tenait, succédait une autre vallée, puis une autre encore. Toutes coupées elles-mêmes de gorges étroites et profondes qui ralentiraient davantage encore leur progression s'ils voulaient atteindre le point où se déroulait le drame dont, par hasard, Moran avait surpris les protagonistes. « On ne peut même pas les apercevoir sans les jumelles, constata Bill. Je crois vraiment que vous avez raison, commandant. Ils sont trop loin. » L'Écossais s'interrompit un instant, puis, malgré tout, il demanda encore. « N'y a-t-il vraiment rien à faire ?»« Regardez, » répondit calmement Moran, « pour le moment, du moins. Ensuite, on pourra aller ramasser les morceaux, c'est ça ?»« À peu près, Bill, à peu près. » Pas le moindre souffle de vent ne rafraîchissait l'air surchauffé par les feux du soleil. La température était accablante. Pourtant, c'était à peine si Bob et Bill transpiraient, habitués qu'ils étaient au climat extrême. De plus, ils se trouvaient en excellente forme physique. « Tu as remarqué, fit Moran ? Le type du dessus est manchot. »« J'ai remarqué. » Je me disais justement que ça doit pas être coton de pousser toutes ces roches avec une seule main, répondit Valentine. D'autant plus que le gars a l'air passablement crevé. Il vacille comme s'il avait bu. Ça m'étonnerait s'il se tapait des whisky soda, bien frappé à longueur de journée comme un gros lourdeau d'Écossais. Le colosse ne parut pas avoir entendu l'allusion, pourtant à peine dissimulée. Ce qui m'ennuie, se conta-t-il de dire en parlant du lointain manchot, c'est que je n'arrive pas à distinguer ses traits. Moi non plus. Je ne parviendrais certainement pas à le reconnaître si je le revoyais de près. À part le fait qu'il soit manchot. Évidemment. Mais il n'est pas le seul de sa corporation. Pour ce qui est du gars d'en bas, il porte un tchoulo. Ouais. Et ça ne nous avance pas davantage... puisque le tchoulo est justement la coiffure d'un peu tout le monde dans le pays. Ça va pas empêcher celui qu'il porte d'en prendre un sérieux coup. Ce n'est pas si simple, fit Morane. Et le manchot s'en rend compte et... il est plus malin qu'on ne pourrait le penser. Mais qu'est-ce qu'il fabrique, s'étonna Palantine. Voilà qui vient de lancer quelque chose sur Tcholo. Maintenant, celui-ci va savoir que le manchot est au-dessus de lui. À moins que le manchot n'oublie justement Tcholo à passer sous le surplomb. C'est ça. Il continue à lancer des pierres de façon à ce que Tcholo se mette à l'abri. Ça y est. À présent, il ne reste plus au manchot qu'à provoquer l'éboulement et le tour sera joué. Grâce à leurs jumelles, ils distinguèrent nettement le manchot qui gesticulait sur le surplomb et poussait dans le vide les blocs de pierre qu'il avait amassés. Pourtant, ils ne devaient guère avoir l'occasion d'en voir davantage. Un épais nuage de poussière grise s'éleva là-bas, voilant tout et camouflant le manchot lui-même. « Rideau !» murmura Bill. « Oui, enfin, du premier acte, » précisa froidement Morane, « et c'est au début du second acte que nous allons entrer en scène. »« Est-ce que par hasard vous voudriez, » commença Bill, « aller jeter un coup d'œil ?»« Tout juste. Un duel à coups d'éboulement, c'est pour le moins assez inhabituel et tu sais que je suis plutôt curieux de nature. »« Plutôt, » fit Valentine entre ses dents. Nul mieux que l'Écossais ne pouvait savoir que Bob était la curiosité faite d'homme.
Se dirigeant vers les lieux du crime, Bob se rend compte que quelque chose cloche dans le rapport distance-proportion. En cherchant bien, au fond du ravin, ils arrivent à découvrir le cadavre de Tcholo, mort, disloqué et entaillé. Une mort bizarre qui les interroge. Rien d'étonnant, si ce n'est que Tcholo fait 18 cm de haut. Ils campent pour la nuit, entendent un bruit et trouvent le manchot étourdi par une chute en venant récupérer le poncho de Tcholo, le sien ayant été emporté par un condor. Ils lui sauvent la vie en le réchauffant avec un duvet. Et le lendemain, ils font connaissance. Voici extrait du chapitre 8.
Nous sommes des amis. Je m'appelle Bob. Et lui, Bill, quel est votre nom ? Alors, pour la première fois, ils entendirent la voix du nain, claire, nette, aussi pure que le son de nos clochettes de cristal. Sucre ! Mon nom est Sucre ! Bob et Bill échangèrent un rapide coup d'œil, et, sans avoir besoin d'échanger un seul mot, ils comprirent qu'ils partageaient le même sentiment. Ils étaient bouleversés, simplement, bêtement, la gorge nouée, sans voix tout à coup. Subitement, ils venaient de se rendre compte que ce minuscule personnage, là, sous leurs yeux, était un homme. Un homme comme eux, un être de leur race. Jusqu'à ce que Sucre leur fasse entendre sa voix cristalline. Ils n'avaient pas accepté réellement cet événement vraiment trop étrange, trop extraordinaire. Maintenant, ils se sentaient tous deux envahis par une joie sans mélange, une sourde jubilation. Bob, toujours en quechua et d'une voix enrouée, répéta doucement « Sucre ? » Puis il enchaîna. « Nous vous avons trouvé cette nuit dans les rochers. Vous étiez évanoui. »« Je sais, » répondit Sucre. « Je crois que je vous dois la vie. Je vous remercie, oh, fit Bob, avec un vague geste de la main. « Si, si, » insista le nain. « Sans vous, à l'heure actuelle, je serais probablement mort de froid. Vous étiez assez mal en point, je le reconnais, mais nous vous avons soigné. Je crois que vous serez très vite sur pied. » Morale s'interrompit, hésita un instant, puis il se tourna vers Bill et demanda en français « Vais-je lui dire que nous l'avons surpris en train de provoquer l'éboulement qui a tué Tcholo ? Ton avis ?»« D'accord, commandant, je crois aussi que c'est mieux. À quoi cela servirait-il de jouer à cache-cache ? Mais qu'est-ce qu'il a dit jusqu'à présent ?»« Il nous remercie, il dit que nous lui avons probablement sauvé la vie, il s'appelle Sucre. »« Sucre ?» Comme du sucre ? Oui, fit Morane en souriant. Ou à peu près, oui. Il se tourna à nouveau vers Sucre et dit doucement en quechua : Je dois vous dire, nous vous avons vu lorsque vous avez provoqué l'éboulement hier. Ah ! Dit simplement Sucre. Vous savez donc pour Calo ? Bon, Morane avait froncé les sourcils. Calo, dit-il. Oui, Calo, répondit le nain. C'était le nom de l'homme là qui me poursuivait. Ah ! Dit à son tour Bob. C'est ainsi qu'il s'appelait. Et je n'ai trouvé que ce moyen pour lui échapper. Le tuer, continua Sucre. Si vous avez vu Calo, Vous savez qu'il était beaucoup plus grand que moi et plus fort aussi. Il leva son bras à main chaud et ajouta « Je n'ai qu'une main, moi ». Certes, Morane n'avait pas remarqué cette différence de taille entre sucre et calot, mais à la réflexion, il devenait évident qu'un écart de 1 ou 2 centimètres à l'échelle de ses hommes avait proportionnellement la même valeur que celui qui séparait un homme mesurant 1m80 d'un autre homme qui ne mesurait que 1m60. Et en effet, sucre n'avait qu'une main. Comme le français se taisait, perdu dans ses pensées, sucre reprit. « Vous pensez que je n'aurais pas dû tuer Callot ?»« Je ne pensais à rien de cette sorte, » répondit Morane. « Je ne suis pas en mesure de juger, du moins pour le moment. Vraiment ?»
Bob hésita un instant avant de répondre en cherchant ses mots. « Je ne sais, je crois que les hommes n'ont pas besoin de tuer leurs semblables, mais je dois reconnaître aussi que dans certains cas, ils n'ont pas le choix. » Moi-même, j'ai déjà été poussé à cette extrémité. Il arrive que je ne puisse faire autrement. Je crois que je ne pouvais pas faire autre chose que ce que j'ai fait, dit Sucre. Et de toute manière, c'était Callot ou moi. Il s'arrêta de parler et Bob le regarda comme il l'avait regardé, avec une attention minutieuse lorsqu'il était plongé dans le sommeil. Sucre appartenait bien à la branche mongoloïde de la race humaine, ainsi qu'en témoignaient les traits fins et délicatement ciselés de son visage, aux pommettes larges et aplaties, aux profonds yeux noirs qui paraissaient si mystérieux européens. Mais pourquoi, diable, Sucre arborait-il le muecua de Indio, ce curieux rictus qui ressemble à un sourire mais qui n'en est pas un, et que les Indiens utilisent comme un réflexe de défense en présence des Blancs? Bob ne s'était jamais étonné de trouver cette grimace sur le visage des Indiens rencontrés jusqu'ici au Pérou, marque d'un antagonisme subsistant depuis la conquête espagnole et qu'il comprenait parfaitement. Mais Sucre, qu'avait-il à faire dans le monde assurément très particulier qui était le sien, d'un antagonisme vis-à-vis du blanc auquel il ne s'est sans doute jamais frotté avant d'être recueilli par Bill et lui? Il voulut obtenir une réponse à cette question et c'est pourquoi il demanda. « Sucre, dites-moi, avez-vous déjà rencontré des hommes comme nous? Vous voulez dire des autres? Je ne comprends pas. » « Oui, c'est vrai, dit Sucre très vite. Nous appelons autres les hommes qui, comme vous, sont très grands. Enfin, très grands pour nous, bien sûr. Non, vous êtes les premiers, autres que je vois d'aussi près. » « C'est pas exactement ce que je voulais savoir, fit Morane. Ce que je voulais dire, c'est ceci. Sommes-nous les premiers hommes blancs à qui vous parlez ?» Sucre ne répondit pas tout de suite. Il ferma les paupières et sembla réfléchir un moment avant de se décider à dire en hésitant. « Voyez-vous, si les miens savaient que je suis en train de parler avec vous en ce moment, ils ne le comprendraient pas. Peut-être même... ne pourrait-il le croire, mais vous m'avez sauvé la vie, je le sais, et vous parlez ma langue. » Sucre se tut, et ses derniers mots tintaient encore dans l'air comme du cristal lorsqu'il reprit. « Moi-même, si on m'avait dit hier que je vous verrais d'aussi près, que je vous parlerais comme je vous parle, je n'en aurais pas cru un seul mot, pas un seul, vraiment. Pourquoi ? Demanda doucement Bob. Parce que... Attendez, s'il vous plaît, répondit Sucre. Je ne sais pas très bien par où commencer. Ce sera long et difficile à expliquer tout ça. D'abord, quand je vous ai dit que vous êtes, vous et votre ami, les premiers autres blancs que je vous vois d'aussi près, ce n'est pas tout à fait exact. Il y a un autre blanc, un autre. Et en laissant tomber ces mots, les lèvres de Sucre s'étaient plissées comme une moue amère. Mais il poursuivit. C'est d'ailleurs avec celui-là que tout a commencé. Tout, insista simplement Morane. Oui, tout, répéta sourdement le petit homme. Tout ce qui nous est arrivé de mauvais, au mien et à moi-même depuis... Dans un souffle, il acheva en baissant la tête depuis si longtemps.
Après bien des hésitations, Sucre raconte l'histoire de son peuple, ceux des roches qui parlent, civilisations bien différentes en tout genre. Et avec l'arrivée des conquistadors, les problèmes sont arrivés également. Pour ceux des roches qui parlent, nom donné à ces petits hommes par les Incas, avec qui ils vivaient jusque-là en bonne intelligence. Les Incas auraient appelé les petits hommes de ce nom ceux des roches qui parlent, parce qu'ils entendaient leur voix comme si elle jaillissait du roc. Voici un extrait du chapitre 10, où Bob raconte à son ami Bill l'échange en langue quechua qu'il a eu avec Sucre.
Un jour, il s'est passé quelque chose de très grave chez eux, chez ceux des roches qui parlent. Il n'y a pas très longtemps, quelques mois à peine, l'un d'eux, enfin, je devrais dire l'une d'entre eux, a été l'une, c'est donc une femme qu'il s'agit. Une femme, oui. Tu ne croyais quand même pas que j'allais te parler d'une roue de vélo ou d'une montgolfière. Un jour, donc, l'une d'entre elles a été enlevée. Elle s'appelait Chabella. Et je te dis tout de suite qu'elle est la fiancée de Sucre et que d'après lui, c'est la plus jolie fille du monde. La plus jolie fille miniature, bien entendu. Cela s'est passé comme ceci. Un jour, elle était là. Le lendemain, elle avait disparu. Aucun de ceux des roches qui parlent ne connaît les circonstances exactes de sa disparition. Qui l'a enlevée ? Demanda Bill. Un autre. D'après les descriptions de Sucre, il s'agirait d'un homme semblable à nous, un blanc. Quelques jours après la disparition de Chabella, l'un des petits hommes a découvert son poncho, placé bien en évidence sur un rocher. Deux jours plus tard, c'était au tour de la bague de la jeune fille, posée au même endroit. Alors ils ont compris. Ce n'était pas un accident, comme il avait pensé tout d'abord, mais un enlèvement. « Si je tenais le sale type qui commence à habiller, cela viendra peut-être, mais laisse-moi continuer. »« Ok, commandant, allez-y. » Quand il a deviné que Chabella n'était pas morte, hein, Sucre était fou de joie, catastrophé peut-être, mais rempli d'espoir de retrouver sa fiancée. Pourtant, en voyant les choses dans leur ensemble, tout cela n'arrangeait pas les affaires de ceux des roches qui parlent. « Ça, commandant... » Ça tombe sous les bons sens. Et comment ? Quelqu'un connaissait leur existence ? Malheureusement, il n'y avait pas grand-chose à faire. Le poncho, puis la bague de Chabella, au même endroit, c'était en quelque sorte une invite. Il était impossible d'avoir le moindre doute à ce sujet. Aussi, le jour suivant, il y avait quelqu'un au rendez-vous près du rocher. Non, pas Sucre, Calot. Pour quelle raison ? Sucre était handicapé par sa main coupée. Alors le conseil de ceux des roches qui parlent a désigné Calot, plus ancien et plus costaud que notre ami. Le conseil de ceux des roches qui parlent a commis une bévue, remarquable, puisque de toute façon Calot ne pouvait rien contre un homme de taille normale. Depuis le temps qu'ils n'avaient plus eu affaire aux autres, ils en avaient peut-être oublié le danger qu'ils représentent. D'autre part, ils n'ont sans doute pas pensé à ce moment-là que Chabella avait été enlevée par un autre. Dieu sait ce qu'ils ont pu imaginer, mais... Assurément, cette idée-là ne leur est pas même venue à l'esprit. Donc Calot a été au rendez-vous. Quand il en est revenu, il était vert de peur. Il ramenait des nouvelles peu rassurantes. Chabella avait bien été enlevée, mais par un autre. Mais un autre à la peau blanche encore, c'est-à-dire le pire de ce qu'on pouvait imaginer. Mais que voulait le ravisseur ? Oh, tu l'as pas deviné. Ma foi, enfin, maintenant que je connais l'histoire de ceux des roches qui parlent, je dirais que ce type voulait de l'or. C'est juste, hein ? C'est juste, ce bonhomme est en train de se faire une jolie fortune en utilisant la taille des petits hommes, exactement comme le faisaient les Incas. Comme le faisaient les Incas il y a plusieurs siècles. Hein. Mais lui ne doit pas prendre l'or pour les larmes du soleil.
Mais comment ce type a-t-il su ? Comment a-t-il appris l'existence de ce des roches qui parlent ? Aucune idée. Peut-être a-t-il entendu parler de la légende et a-t-il connu de cette manière l'existence des petits hommes ? Je n'en sais rien et Sucre non plus. Ce qui est certain, c'est que l'autre se remplit drôlement les poches avec l'aide, une aide forcée basée sur le chantage, de ceux des roches qui parlent. Qu'a dit exactement Calot lorsqu'il est revenu auprès des siens ? À peu près ceci. Chabella était au pouvoir de l'autre, qui exigeait de l'or. Il leur remettrait Chabella lorsqu'il s'estimerait suffisamment approvisionné en métal précieux. Les petits hommes n'avaient qu'à déposer l'or à un endroit précis. Ce qu'ils ont fait, bien entendu, mais il y a des mois que cela dure et aux dernières nouvelles, l'autre ne parlait toujours pas de rendre sa liberté à Chabella. Vous dites qu'il ne parlait toujours pas. Et est-ce que ça veut dire qu'il connaît lui aussi le Quechua ? Parfaitement. Un homme blanc qui parle le Quechua ? Mais à part vous, commandant, il ne doit pas y en avoir tellement dans le coin, vous ne pensez pas ? Peut-être, Bill, peut-être. Vous ne savez pas si... Ceux des roches qui parlent ont essayé d'en apprendre plus long à propos de cet autre. Ils auraient pu le suivre, par exemple, pour tenter de savoir où il se niche. T'oublies leur taille, mon vieux Bill. Que penserais-tu si tu devais suivre à la marche un homme qui, comparé à toi, mesurerait à peu près 20 mètres de haut? C'est vrai, j'oubliais ça. Eux y ont pensé. C'est-à-dire que le conseil a examiné de quelle manière il pourrait bien se débarrasser de l'autre. Et au train où allaient les choses, ils ne devaient pas envisager de sitôt le retour de Chabela. Et alors? Ils ont décidé d'avoir la peau de l'autre, tout simplement. Bill ouvrit des yeux ronds. Décidé d'avoir la peau de l'autre, répéta-t-il. Mais rien que ça? Mais comment pense-t-il y arriver? Avec un lance-pierre? Tu sais qu'il t'arrive parfois d'être drôle, Bill. Non, rien de tout ça, je crois. Sucre parle d'une arme, une arme qui aurait appartenu aux Espagnols et qui date du XVIe siècle, ou quelque chose comme ça. C'est une conclusion personnelle, car Sucre ne semble avoir aucune idée des dates. Si ça se trouve, ils vont donc utiliser un vieux fusil à rocher ou une arquebuse. Peut-être, Bill, si tu es d'accord...
Comment ça, je suis d'accord?
Si tu es d'accord... pour donner un coup de main à ceux des roches qui parlent. Sois habile. Tu es grand, lourd et intelligent.
Bob et Bill acceptent aussitôt d'aider Sucre qui les conduit non loin de là à ce qu'ils nomment la caverne des Incas, devant une énorme muraille rocheuse. Par une ouverture qu'ils déblaient, ils découvrent une grotte remplie de trésors, d'armures et d'armes, cachées là par les conquistadors. C'est là que Sucre avait commencé à démonter une arbalète dans l'intention de tuer l'autre qui les exploite. Ils prennent une nouvelle arbalète et se rendent près de la cité cachée de ceux des roches qui parlent, où ils doivent déposer l'or qu'ils trouvent pour l'autre. Après avoir fixé l'arbalète dans le sol avec des pieux et des cordes, Sucre, en compagnie de Bob et Bill, attendent l'arrivée de l'autre, ce qui ne tarde pas. L'autre arrive, puis repart avec une partie du métal, suivie discrètement par Bob et Bill. La filature les mène à un village abandonné. Attendant que l'autre reparte chercher le reste de l'or, Bob entre dans une maison et trouve Chabela enfermée dans une cage à oiseaux. Bob tente d'ouvrir la cage et se fait surprendre par l'autre, revenu dans son dos. Il réussit à le maîtriser, mais se fait assommer par quelqu'un arrivé par derrière. Il se réveille ligoté devant le comte Vorodan, un aventurier qui a étudié de vieilles légendes incas et qui en a déduit l'existence de ceux des roches qui parlent, et a fini par les retrouver. Il a enlevé Chabela et contraint le petit peuple à lui apporter de l'or, qu'ils vont chercher dans les fissures des rochers grâce à leur petite taille. Et il y a aussi Zoltan Breler, son âme damnée. Tous deux sont de vieilles connaissances de Bob, les cavernes que Bob a rencontrées dans les cavernes de la nuit. Il veut savoir comment Bob est arrivé sur les lieux, ne croyons pas au hasard. À force d'ironie, Bob exaspère Vorodan qui commence à tirer sur lui, le blessant légèrement au bras. Il va le tuer quand à ce moment un tremblement de terre fait écrouler le plafond. Vorodan meurt sous l'éboulement. Et Breler s'enfuit, emmenant Chabela en otage pour récupérer le reste de l'or. Bob et Bill, arrivés entre-temps, le poursuivent. Mais celui-ci leur tend un piège en simulant un malaise provoqué par l'altitude. Puis il repart chercher de l'or, tenant Bob et Bill sous la menace de son arme. Sucre est là, caché, et atteint Breler en plein fond d'un carreau d'arbalète. Les deux autres morts, Chabela est indemne et libre, Sucre est heureux, Bob et Bill peuvent repartir. Mais auparavant, suprême marque de confiance, Sucre dévoile aux deux amis l'entrée de la cité de ceux des roches qui parlent. Quant à l'or extorqué par Vorodan, qui n'intéresse en aucun cas le petit peuple, Bob le fait remettre ainsi que le plan d'accès à une caverne des Incas au père Ramirez, pour venir en aide aux nombreuses victimes que le tremblement de terre a fait dans la région, avec un message anonyme. Nous savons bien que l'or ne ressuscite pas les morts. Cependant, vous pourrez utiliser celui-ci pour venir en aide aux vivants. Merci Françoise, merci Philippe pour ces belles lectures. La semaine prochaine, nous clôturerons notre série d'émissions sur Henri Verne et Bob Moran avec le roman fantastique Quick. Notre émission est maintenant terminée. Voici la citation du jour. « L'amour comme la peur donne des ailes ». Elle est d'Henri Verne, dans le tome 134 de Bob Moran, « Les anges d'Ananke ». Vous retrouvez le podcast de cette émission sur le site de la radio Altitude FM, http://www.altitudefm.com/. Et bien sûr, toutes les informations et bien d'autres sur le site de l'Union régionale, fncta-midipi.fr. Si vous souhaitez me contacter, vous connaissez mon téléphone 05 61 42 12 45. Allez voir le théâtre amateur, c'est du théâtre de qualité joué. Mise en scène éclairée et sonorisée par des passionnés de théâtre. C'était Théâtralité, l'émission du comité départemental FNCTA de la Haute-Garonne, l'émission qui parle du théâtre amateur. N'oubliez pas de nous retrouver tous les mercredis à 12h30 sur Altitude FM 93.5. Bonne journée à tous et à mercredi prochain. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir Françoise, au revoir André, au revoir à tous.